Bienvenue au balado-diffusion de Source de vie. Votre opinion est importante pour nous, alors n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et suggestions à l'adresse suivante. info@ccsdv.com info@ccsdv.com
Je vous garantis que cette semaine, spirituellement, ça a été très difficile. Ça a été une semaine très difficile. Dès que j'ai commencé, dès que je savais ou que je me suis mis dedans, c'est devenu spirituellement très lourd, très difficile, très ardu. Ça a été un combat. Il fallait vraiment que je revienne toujours à Dieu parce que c'était tellement pesant dans mon cœur. Je trouvais ça difficile. Et je sais que pour plusieurs, je veux juste vous avertir, certains n'aimeront peut-être pas ce message-là. En fait, ils vont peut-être même refuser de prier cette prière-là. C'est pas un message populaire pour se sentir bien. C'est pas le genre de prière qui demande à Dieu « Rends ma vie chrétienne confortable. Rends-moi heureux, bénis ma famille, mon foyer. » Comme la plupart des prières qu'on fait. Mais cette prière-là a le potentiel d'ouvrir ton cœur de telle façon que ta vie va être changée et que jamais tu vas pouvoir être le même. Que jamais tu auras expérimenté Dieu de cette façon-là. Et je comprends cette personne-là qui m'a écrit cette semaine, qui me dit « Ah, oh, j'ai peur de prier ça. » Je la comprends tellement. Je comprends ce genre de dilemme-là de se dire « Mais si je prie ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Si je me mets à prier comme ça, c'est où je vais aboutir? Comment je vais dealer avec ça? » Et je comprends ça parce que c'est jamais facile d'avoir cette audace devant Dieu. Et quand je dis audace, en fait, je pourrais même dire prière dangereuse. Parce qu'à la limite, c'est dangereux. C'est dangereux, un bon dangereux, mais c'est dangereux. Ça a le potentiel de vraiment changer la direction de ta vie. Puis, lorsque je regarde ce message-là, « Brise-moi », à plusieurs reprises dans ma vie, j'ai même pas eu besoin de le prier. Dieu l'a fait pareil. Et il y a de ces moments-là où tu sais que t'es brisé. Et comment on sait qu'on est brisé? Parce que peut-être, ah, Seigneur, je brise-moi, mais comment on sait qu'on l'est? Puis peut-être vous posez la question, mais pasteur, on sait comment qu'on est brisé. En fait, quand t'es brisé, t'as pas besoin de le demander. Tu le sais. Tu le sais que t'es en morceaux. Il y a pas de question. On te dit pas, est-ce que Dieu est en train de me briser? C'est clair. Tu le sais. Ça fait pas du bien à notre ego, ça fait pas du bien à notre émotionnel. C'est juste que Dieu a cette action-là dans nos vies. Et dans ces moments-là, où Dieu a brisé, même si j'y avais pas demandé de le faire, je pouvais pas m'imaginer l'intimité, la proximité avec Dieu qui se trouvait de l'autre bord de ça. Je pouvais pas réaliser à quel point Dieu pouvait agir comme ça dans ma vie et de voir ce qui se passe de l'autre côté du « brisement », entre guillemets. Mais qu'est-ce qu'on n'aime pas dans le brisement? C'est la souffrance. En fait, ce qu'on veut pas dans la vie, c'est souffrir. En fait, c'est ce qu'on essaye le plus de fuir, la souffrance. Et on est dans un monde autant beau et d'apparence, mais qui souffre comme jamais. Il s'est jamais vendu autant de médicaments. De gens qui ont besoin de calmer leur souffrance parce qu'ils souffrent de toutes sortes de maux, de toutes sortes. Mais c'est une réalité et ce qu'on veut pas, c'est « Ah, quand je souffre, je veux pas que demander à Dieu de me faire souffrir plus. Je veux pas, quand je suis dans une situation où j'ai de la peine, j'ai de la douleur, de dire « Dieu, ajoute-en donc, voir. » Je veux pas prier ça. Et c'est ce qu'on pense quand on dit « Oh, je veux pas prier, brise-moi, je suis déjà brisé, je veux pas, j'en veux pas plus, ma coupe est pleine, même elle déborde si vous en voulez. » Et cette réalité-là, c'est difficulté de voir ce que Dieu cherche à apporter dans ça. Et comme je vous dis, c'est pas tout le monde qui va prier ça, peut-être certains vont refuser, mais juste de considérer de donner la permission à Dieu de faire une transformation profonde dans ta vie. On va regarder ce matin deux histoires. En fait, deux histoires différentes, mais qui sont similaires. Différentes et qui se suivent, en fait. Ils sont dans le même chapitre, dans le même livre. Dans le même livre, le même chapitre. Ils sont une derrière l'autre. Ils se suivent, ils sont similaires. Vous allez voir pourquoi, mais ils sont très différents dans une autre option. Et la première qu'on va voir, c'est l'histoire d'une prostituée. L'histoire d'une prostituée, et à l'époque, je veux que vous compreniez que c'est pas un choix de carrière. C'est pas quelqu'un qui décide de faire ça dans la vie. C'est une situation, c'est même pas une option, c'est... En fait, t'étais détesté des femmes puis abusé des hommes. C'était horrible. C'était tu voulais pas ça. Tout le monde te regardait avec des regards de honte et de dégoût. Et un jour, cette prostituée-là a rencontré un homme qui l'a traité différemment. Et probablement que ça faisait longtemps que personne ne l'avait traité avec respect et dignité. Qui lui a montré ou l'a démontré du respect envers elle puis qui l'a bien traité. Il l'a aimé de façon appropriée. Puis ça l'a tellement transformé cette femme-là qu'elle voulait l'adorer, cet homme-là, du plus grand sacrifice qu'elle pouvait faire. Le plus grand sacrifice qu'elle pouvait s'imaginer, qu'elle pouvait donner. Puis son geste, qui était extravagant, qui était comme fou, a apporté confusion aux gens autour d'elle. Ça a apporté une confusion à tout le monde dans l'histoire. Et on va regarder cette histoire-là qui se trouve dans Marc au 14e chapitre. Le verset 3, ça commence comme ça. Ça dit « Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre plein d'un parfum très cher, fait de nard pur. » OK, on va juste établir des faits en commençant. Jésus, il est où? Il est où à Béthanie? Il est dans la maison de qui? Simon le... All right, Jésus est chez Simon le lépreux. Faut vous pas vous oublier une chose, tout le monde fuit les lépreux. Oui, Jésus est assis à table avec chez Simon le lépreux. À l'époque, tout le monde fuit les lépreux. Personne ne veut être avec eux autres. Jésus est leur ami, et non seulement ça, ils vont manger avec eux autres. Donc, Jésus est chez Simon, en train de manger à table. Et Simon est le quoi? Le lépreux. Alors, retenez ça, retenez bien l'histoire. Vous allez voir comment c'est fascinant. Et là, pendant que tout le monde fuyait les lépreux, Jésus est là. Et là, il y a l'histoire du parfum. Il y a un parfum qui apparaît là-dedans, qui a tellement de valeur. Puis en réalité, on parle de l'équivalent à peu près d'une année de salaire de ce parfum-là. Établissons le parfum. Mettons une année de salaire, on va être conservateur, entre 25 et 30 000 piastres par année. OK? Moyen. C'est moyen. Donc, mais imaginez un parfum qui vaut entre 25 et 30 000 piastres aujourd'hui. C'est cher. Ça revient cher, le parfum, hein? Et là, il y a ce parfum-là. Donc, Jésus est à Béthanie dans la maison de Simon, le lépreux, n'oublions jamais. Et là, il y a quelqu'un qui arrive avec un vase d'albâtre rempli d'un parfum qui vaut 25-30 000. Imagine ça dans ta vie. Pourquoi c'est aussi cher? Parce que c'était rare. C'était très, très, très rare. Mais oublions pas une chose. Pour cette prostituée-là, le parfum, c'est pas simplement de l'argent qu'elle avait amassé ou que là... Ça fait partie aussi de ses outils de travail. C'est comme ça qu'elle peut séduire à se mettre du parfum. Ça fait partie d'une quelque chose qui apporte des revenus. Ça fait partie d'un outil qui génère des revenus. C'est pas simplement un placement, c'est aussi quelque chose qu'elle utilise, qui rapporte. Donc, elle apporte ce parfum-là qui est, oui, l'outil de séduction, mais aussi l'outil de ses revenus. Elle fait quoi avec? On continue le verset 3. Elle brisa le flacon et versa le parfum sur la tête de Jésus. Imaginez un instant. Elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle brise et verse. OK? Répète après moi. Briser, verser. Briser, verser. On commence. Briser, verser. OK? Et donc, elle a brisé puis elle l'a versé. Là, c'est la cohue, c'est la confusion en place. Alors, regarde, parce qu'il n'y a pas rien que Simon qui est là. Il est chez Simon, mais il y a d'autres mondes chez Simon. Simon le lépreux, mais il y a des amis. On ne sait pas c'est qui ses amis. Il y a de l'air qu'il y a des amis. C'est un lépreux, puis il y a des amis. Peut-être que c'est d'autres lépreux, on ne sait pas. Mais, regardez bien ce qui se passe au verset 4. Certains de ceux qui étaient là furent indignés se dire entre eux, à quoi bon ainsi gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent pour le donner aux pauvres. Et il critiquait sévèrement cette femme. Et j'ai pas souligné le mot sévèrement, mais pensez-y un instant. Vous avez un gars qui est lépreux, que le monde veut pas voir, qui est en train de critiquer sévèrement une prostituée. C'est assez paradoxal. C'est la personne qui est rejetée, qui est en train d'en rejeter une autre. C'est le lépreux qui rejette la prostituée. On imagine, j'imagine facilement cette scène-là au ralenti. Tu sais, elle brise le parfum. Puis imaginez, on juge les réactions, mais regardez bien ça. Elle, elle arrive, elle brise le vase, elle le verse sur la tête de Jésus. Et probablement que les autres ont fait tu sais, genre, là, au slow-mo, là, t'imagines, il est comme, ah, non! C'est comme, mais je m'imagine cette scène-là où ils sont indignés, c'est comme, ah, oh, qu'est-ce qu'elle a fait là? Qu'est-ce qu'elle vient de faire là? Et un vase d'albâtre d'un parfum qui vaut 25 000 piastres. Il doit être assez concentré, merci. Non, mais je sais. Il doit pas être dilué, ben. Elle casse puis elle verse au complet. T'imagines-tu comment ça sent? C'est pas juste, tu sens bon aujourd'hui. Il y en a, là. Elle est chez qui? Elle est chez Simon le lépreux, qui se ramasse avec un vase de parfum au milieu de la table. Wow! Si tu parles de Febreze, là. Ça, c'est sérieux, là. Ça, c'est comme... Ça nettoie au fini. On sent plus les vaches, les cochons, les ânes, on sent plus rien, ça sent le parfum. Ce geste-là, et plusieurs s'indignent et jugent son geste, mais on juge leur réaction, mais on aurait probablement eu la même réaction qu'eux autres. Moi, le premier, en me disant, t'aurais pu verser 2-3 gouttes sur Jésus, puis on vend le reste, puis on nourrit les pauvres avec ça. 2-3 gouttes, ça va faire la job, ça. On aurait pu avoir cette même... Mais ce geste d'adoration-là est bien plus extravagant que vous le pensez. C'est complètement disproportionné. C'est fou ce qu'elle est en train de faire. C'est hallucinant de dire, je prends 25 000 $, je le jette sur Jésus. Hey, il y a une minute. Hey, 25 000, OK, mets-en 2 000, puis le reste, on va le garder pour faire d'autres choses. Mais elle, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne tout ce qu'elle a de plus précieux. Brisé et versé. En fait, ce geste-là lui dit, en fait, c'est en train de vraiment dire à Jésus, tu peux avoir toute ma vie. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, est à toi. Je te donne ce que j'ai de plus précieux, de plus de valeur dans ma vie. Et il faut comprendre une chose, c'est que ce don-là représente deux choses. Il représente premièrement son passé. C'est sa vie à d'avant. C'est la vie qu'elle laisse derrière en disant « j'arrête ça ». Ça représente tout qui elle était avant. Et ce don-là représente aussi son futur. Parce que c'est toutes les économies d'une vie, mais aussi les sources pour pouvoir avoir de l'argent après. Donc, c'est comme son don dit « tout ce que j'étais puis tout ce que j'aspire à être, je te le donne ». Plus rien à moi, mon passé, mon futur, ça t'appartient, faisant ce que tu veux. Jésus a tellement, c'est comme ça se dit, Jésus m'a tellement aimé que je lui donne ce que j'ai de plus précieux. Ça ressemble à quelque chose d'un autre verset, ça. D'un verset dans Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique. En fait, on pourrait traduire, car Dieu a tellement aimé qu'il a répandu son fils, ce qu'il avait de plus précieux. Je ne retiens rien. Rien de ce que j'ai, je te donne tout. OK, ça c'est notre première histoire. On s'en va à la deuxième histoire. Vous prêts? Pas grave, on y va pareil. Dans l'histoire, pour vrai, elle vient littéralement après. Dans le même livre, mais le contexte est différent. Jésus est à son dernier repas. Il est avec ses amis les plus proches. Et il sait ce qui s'en vient, parlant de la croix. Il sait ce qui va se passer. Marc, au 14e chapitre, le verset 22-24, qui dit, pendant le repas, encore en train de manger, lui, pendant le repas, Jésus prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Et il leur dit, prenez ceci, c'est mon corps. Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il leur donna et l'en burent tous. Jésus leur dit, ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens. Brisé, versé. Brisé, corps brisé pour nous, sang versé pour nous. Luc apporte la même histoire. Luc apporte la même histoire, mais un certain détail supplémentaire dans Luc au 22, au verset 19. Il va un petit peu plus loin, c'est ce qui est intéressant. Il dit, puis il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit, brisé, et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est quoi le ceci? Il entend quoi par ceci? Et là, je sais que tout le monde vient naturellement avec la première conception. Et quand on prend la communion ensemble, comme on a fait le mois passé, quand on prend la communion ensemble, on fait ça. On se souvient de ce que Jésus a fait pour nous. Ouais? Donc, on parle de la Sainte Cène, de la communion. Et tous les théologiens sont d'accord là-dessus que le ceci se rapporte à la célébration de la communion ou de la Sainte Cène. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a d'autres qui vont un peu plus loin, que je trouve vraiment le questionnement intéressant. Ils vont dire qu'il y a une signification plus que simplement un rituel, plus que simplement le souvenir. C'est comme, ils disent, est-ce que Jésus nous demande quelque chose de passif, de dire, ben quand vous allez faire ça, souvenez-vous de moi. Est-ce qu'il y a plutôt un geste d'action que Jésus demanderait? Est-ce qu'il y aurait quelque chose que Jésus dirait, faites ceci comme moi j'ai fait? Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont aller plus loin, ils vont dire, si Jésus avait un point à nous montrer dans ça, de pas juste le rituel de la fin, mais comment il l'a vécu. Pas « faites ceci en mémoire de moi » de simplement le dernier repas que j'ai fait, mais souvenez-vous de comment j'ai vécu, la vie que j'ai menée, comment j'étais avec vous autres. Et ce questionnement-là est très intéressant parce que quand tu rouvres cette porte-là, tu commences à voir ce phénomène-là de briser, verser. Brisé, versé, revient constamment. Et ce point-là, que c'est comme si ces théologiens-là, je trouve intéressant, apportent l'idée que Dieu nous appelle à vivre, pas simplement de célébrer la mort de Jésus, mais vivre sa vie. Vivre comme lui. Vivre ce qui lui était, d'aimer comme Jésus, de pardonner comme Jésus. Et ce qui est cohérent avec le sens où Jésus va dire dans ce repas-là, je vous ai donné un exemple, faites la même chose que moi. Faites comme moi je vous ai fait. Et c'est cette notion-là qui est intéressante de dire, ben Jésus a pas simplement apporté on a une photo, souvenez de Jésus sur le foyer, puis on se souvient de lui. Non, il y a quelque chose de geste qui se transmet dans la vie de tous les jours, qui est pas simplement quelque chose que je me souviens qu'il a fait, mais je vis de la façon dont il a vécu. Et ça, c'est le point où je veux vous apporter. Dieu nous appelle à vivre, à aimer comme Jésus. Et un de ces points-là que Jésus a fait, c'est qu'il a mourir à soi-même, laisser sa volonté pour la volonté de Dieu. Qu'il a mis de côté ce que lui désirait pour faire ce que Dieu lui demandait. Parce qu'à travers ces moments-là de difficulté, ces moments-là de comme Jésus a vécu à la croix, tu sais, savez Jésus quand il est arrivé au jardin de Gethsémané et qu'il savait ce qui s'en est. Et nous, on fait tout, oh Jésus, c'est tellement extraordinaire le sacrifice que tu as fait. Et on célèbre cela. Mais on célèbre pas souvent l'agonie et le désir de ne pas y aller. On regarde pas souvent comment Jésus, ça y tentait pas. À ce moment-là, il l'avait pas à cœur. C'était pas quelque chose qui disait, oh oui, j'ai le goût. Non, il n'en avait pas le goût. Il a été clair en disant, si c'est possible qu'on trouve une autre option, y est-tu possible qu'on fasse d'autres choses? Y est-tu possible que je sois pas brisé? Y est-tu possible que j'aille pas à verser mon sang? Y est-tu possible qu'il se passe d'autres choses, d'un autre plan? Et son désir, c'est de ne pas vivre le brisement. De ne pas vivre la souffrance. Donc, s'il y a quelqu'un qui comprend notre désir de ne pas vouloir souffrir, c'est Jésus. C'était pas quelque chose qu'il voulait. Il voulait pas souffrir. Mais il revient à une chose très intéressante. Il va dire, OK, moi, je t'ai fait part de ce que je ne veux pas. Je t'ai fait part de ce que j'ai pas envie de vivre. Mais, pas mes idées, pas mon plan, pas ma volonté, tes idées, ton plan, ta volonté. Ça me tente pas. J'ai pas le goût de vivre ça. J'ai pas le goût d'avoir mal. J'ai pas le goût de souffrir. J'ai pas le goût de cette douleur-là. J'ai pas le goût du brisement. Je suis pas comme ça. Jésus est pas quelqu'un de masochiste. C'est pas quelqu'un qui veut qu'on lui fasse mal. Il veut pas ça. Et comme tout être humain, on dit, je veux pas ça. Si c'est possible que, et lui, il va le dire dans les mots, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Est-tu possible que j'aie pas à verser mon sang? Est-tu possible que je puisse faire une autre affaire? Et malheureusement, pour lui, il n'y avait pas d'autre plan. Heureusement pour nous, Dieu avait un plan. Et là, dans cette pensée-là, combien de fois on peut arriver devant le Seigneur et dire, « Ah, Seigneur, je te donne ma vie, je m'abandonne à toi, mais je veux pas que ça fasse mal. Je veux pas souffrir. Je veux pas être rejeté. Je veux pas vivre d'épreuves. Je veux pas être abandonné. Je veux pas vivre des difficultés. Je veux rester en santé. Seigneur, je vais te servir. Je vais te donner toute ma vie. Mais, et là, c'est là nos conditions. Et on, les conditions, peu importe. Là. Ils varient d'un moment à l'autre de nos vies, d'ailleurs. Dépendamment de quelle saison on vit en ce moment. Seigneur, je vais te servir, mais pas ça. Et c'est exactement la même phrase que Jésus a dit. Je vais le faire, mais pas ça. Mais il s'est rendu au point, il s'est dit, OK, pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Brisé, versé. Le brisement dans nos vies est quelque chose qui, je comprends, tellement répugnant pour nous autres émotionnellement et humainement parlant. C'est comme la souffrance, c'est tellement quelque chose qu'on veut pas. On fait tout pour l'éviter. Hein? Le moins qu'on peut souffrir, le mieux c'est. Tu es d'accord avec moi? Hein? C'est pour ça qu'il y a le monde qui fuit l'hiver. Mais on veut pas souffrir. Puis c'est normal. C'est dans notre nature humaine. Ça fait partie de notre ADN. On peut pas le défendre. On peut pas l'enlever de nous autres. Et je suis pas en train de dire que ce que Dieu aime, c'est nous faire souffrir. C'est pas ça du tout. C'est que malheureusement, il y a plusieurs points dans nos vies où on a besoin d'apprendre et on a besoin d'enlever de nous. On est souvent trop présent dans notre vie. Ce que je veux dire par là, c'est que cette phrase où Jean-Baptiste va dire « Il faut que je diminue et que lui augmente » parlant de Jésus. Il faut qu'il y ait moins de moi et plus de lui. Et Paul va même dire, ben, ma vie, c'est plus ma vie, j'y ai donné à Jésus. C'est plus ma vie, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand on pense à ça, on se dit, oh wow, quelle phrase extraordinaire de Paul, c'est tellement merveilleux. Ouais, mais quand t'es rendu là, t'es brisé. Quand t'es rendu à dire ça, c'est même plus ma vie. C'est même plus mes plans. C'est même plus ce que je veux faire. C'est ce que Dieu me demande de faire. Et les brisements, on réalise pas, mais c'est à travers nos brisements qu'on connecte avec les autres. En fait, regardez bien cette phrase-là. Nous impressionnons les gens avec nos forces, mais nous nous connectons à travers nos faiblesses. La réalité, c'est que parfois, il y a des personnes qu'on détestait dans la vie. Tu sais, il y a du monde trop parfait. N'en avez-vous déjà rencontré, vous autres? On les haït juste parce qu'ils sont parfaits. Non, mais je dis ça de même, vous allez comprendre. Et à un moment donné, vous apprenez quelque chose dans leur vie, un problème, ou vous vous rendez compte qu'ils sont pas parfaits finalement. Ça les rend sympathiques. Ça les rend plus aimables. Tout à coup, et même des gens qu'avant on détestait, que tout à coup on se met à aimer, juste parce qu'on a réalisé qu'ils étaient humains. Parce qu'ils en avaient arraché, puis tout à coup on venait de connecter avec eux autres. Quand on voit des personnes, des gens qui ont vécu des cheminements pratiquement parfaits. Je pense à un personnage, entre autres, je me rappelle il y a quelques années, Michael Phelps. Souvenez-vous de médaillé olympique qui finit plus de gagner des médailles en natation. Connaissez-vous ça? Et le monde le détestait parce qu'il était juste trop bon tout le temps. Non, c'est vrai, c'était, le monde l'haïssait pour ça. En fait, il détestait pas personne, il détestait parce qu'il gagnait tout le temps. Puis à un moment donné, quand tu apprends son histoire, tu découvres sa vie, atteint du TDAH, quelqu'un qui en a arraché dans les écoles, rejeté par les autres, tu fais comme « Oh, mon Dieu! » C'est ce qui le poussait à se dépasser. Et tout à coup, ils deviennent sympathiques. Il y a des gens comme ça qu'on apprend leur faiblesse et tout à coup, on se rend compte qu'ils sont humains puis on se met à les aimer à cause de ça. Et on réalise, et ça nous prend du temps à comprendre ça. Il y a des émissions de télé qui font juste nous montrer ça, pour nous montrer cette partie-là, de dire, quand tu apprends à connaître quelqu'un, à connaître ses faiblesses, à connaître ses manquements, tu te mets à faire « Oh mon Dieu, j'avais jamais pensé. » Et là, tout à coup, tu te mets à l'aimer puis à dire « Oh wow, j'ai du respect pour cette personne-là, wow. » On impressionne les gens par nos forces, mais on connecte avec les gens par nos faiblesses. C'est dans nos faiblesses qu'on connecte avec le monde, qu'on fait comme « Hey, on est pareil. » On a arrangé. Et tout à coup, il y a comme un lien qui se crée. Il y a un lien qui se crée dans le brisement, qui se crée pas dans nos forces, qu'on a besoin de ce côté-là. Nous impressionnons les gens avec nos forces, mais nous nous connectons à travers nos faiblesses. Mais dans nos faiblesses, nos moments de brisement que nous connectons avec les autres, et aussi longtemps que tu gardes cette invincibilité, cette apparence d'être invincible, il n'y a aucune connexion qui se fait avec les gens. Parce qu'on ne connecte pas avec quelqu'un de parfait. Parce qu'on ne s'identifie pas avec quelqu'un de parfait. On n'est pas capable. La perfection fait que ben, moi, je ne suis même pas proche de ça. Parce qu'on connaît toutes nos erreurs, on connaît tous nos manquements, on connaît nos brisements, on sait où on est, on sait quel genre de vie qu'on a. Et quand on voit quelqu'un qui semble tout l'avoir, on fait comme... J'aimerais ça avoir une vie de même. Et on souhaite d'avoir une vie comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'on a le goût de connecter avec cette personne-là. Mais par contre, les brisements nous rapprochent. Quand on est vulnérable, quand on laisse tomber les masques, lorsqu'on vit ces moments-là, et je le sais, je suis le premier, il n'y a personne qui veut prier, brise-moi. Et en fait, c'est... pas tout le monde qui a la même réponse à ça. Parce que il y a des gens qui disent « Je veux même pas essayer de la prier. Je l'envisage même pas. » Mais c'est ce qu'on sait pas, c'est ce qu'il y a l'autre bord du brisement, de l'autre côté. Personne ne peut savoir. Dieu seul le sait. Et c'est pour ça qu'il me dit « Fais-moi confiance. » Et on a tellement de misère à y faire confiance parce qu'on a tellement peur de la souffrance, d'être brisé, de vivre ce genre de choses-là, qu'on on met le pied sur... pas le pied, les deux pieds sur le frein. On embarque de bout. J'ai cette image-là de la personne qui prend après le volant, puis les deux pieds sur le pied. Oh, j'avance plus. Je veux pas avancer. Et par-dessus le plaisir de savoir ça, c'est que... je veux que vous compreniez une chose. Maintenant que vous sachiez tout ce bonheur-là du brisement, je veux que vous compreniez que le brisement, c'est pas un événement. Quelle bonne nouvelle! C'est un processus. C'est quelque chose de continu. C'est pas quelque chose... Ah, j'avais une bonne nouvelle. Là, vous avez trouvé la nouvelle de brise-moi meilleure. Là, tout à coup, là, vous dites, non, mais là, c'est brise-moi, mais continue à me briser. Ouch, là. Brise-moi une fois, OK, mais... je vais m'en remettre, mais brise-moi tous les jours, arrête, là. Et c'est là, on fait, non, c'est où qu'on débarque? Je suis sûr qu'il y a plusieurs dans votre cœur, vous avez juste envie de crier puis vous sauver par la porte. Barrez les portes. Moi, je vais vous confier puis vous confirmer que dans les plus grands moments de brisement dans ma vie ont été souvent les sources des plus grandes bénédictions de Dieu, par contre. Les moments les plus difficiles. Et je le répète, je sais que j'ai pas besoin d'applaudissements pour ça, là. Juste comprenez quelque chose. Les plus grands brisements de la vie conduisent souvent aux plus grandes bénédictions de Dieu. Je pense juste à Pierre, l'apôtre Pierre avec Jésus. Où un jour, il apparaît dans cette merveilleuse scène où Jésus lui dit, Pierre, tu vas me renier. Et Pierre de lui répondre, moi, jamais de vie. Voyons donc. Pierre est fort. Pierre est bon. Pierre est invincible. Pierre, c'est le meilleur. Voyons, Jésus, pas moi. Je suis un homme, moi. Je sais de quoi je parle. Jamais m'a renié. Trois fois. Et ça nous dit que Pierre pria amèrement. Beaucoup de regrets de dire. Et Pierre a été brisé. Brisé. Au point où, même Jésus va dire, Pierre, tu vas vivre ça. Mais quand tu vas revenir, tu vas t'en remettre. Mais quand tu vas revenir, encourage les autres, affermis les autres, donne-leur de la force. Et Pierre, il a dit, ben, moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je suis déjà, Pierre est déjà fort. Pierre, sa qualité principale, c'est qu'il parle plus vite que son ombre. C'est, il parle, il dit des affaires, puis il réfléchit pas. c'est une grande qualité de Pierre. Plus tard, après ce remords-là, Jésus va confronter Pierre à ce sujet-là, sur le bord de la mer. Il va manger du poisson pour eux, il va préparer du poisson. Puis Jésus va lui demander trois fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, m'aimes-tu? Ben oui, Jésus, tu sais que je t'aime. Et la troisième fois, ça dit que Pierre était tout triste. Ah, pas tout de suite. Pierre était tout triste. Pierre était triste que Jésus lui pose la question. Il revivait le brisement. Elle dit, Pierre, t'es pas ce que tu penses. T'es plus vulnérable que tu ne le crois. T'es beaucoup plus faible que tu le penses ou que tu veux le projeter, ta force. Et c'est Pierre qui se résigne en disant, Jésus, je m'en rends, anyway, tu le sais. Moi, je t'aime et tu sais toutes choses, anyway. Et plus tard, quelques jours plus tard, qu'est-ce qui se passera après la résurrection? Pierre va apporter un message à plus de 3000 personnes où ces gens-là vont se convertir. Avant, il y a eu le brisement, avant les moments de bénédiction qu'il a apporté. Souvent, les gens que Dieu utilise le plus sont souvent des gens qui ont été brisés profondément. On le réalise pas, mais souvent, les gens qui ont le plus grand impact avec Dieu, c'est des gens que Dieu a brisés énormément. Pas qu'il voulait, parce que personne ne désire ça. Faut que vous compreniez une chose, c'est que Dieu ne gaspille jamais un moment brisé, une personne brisée. Certains ici pourraient apporter ce message-là encore mieux que moi, vous pourriez le prêcher encore mieux que moi, parce que vous êtes peut-être dedans, dans le brisement. Être brisé, je sais que ce n'est pas vraiment la mode et populaire comme message. Et que ça peut faire peur, je comprends. Mais véritablement, ce qu'on a besoin, c'est que Dieu le fasse en chacun de nous. Qu'il enlève de Jean-Marie pour mettre plus de Jésus. Il a besoin de faire ça. Parce que s'il y a trop de moi, il peut pas l'utiliser. Je suis l'obstacle. Je suis le plus grand obstacle à ce que Dieu puisse m'utiliser. On peut mettre ça sur le dos des circonstances, on peut mettre ça sur le dos du diable, on peut mettre ça sur le dos de qui vous voulez. Pour vrai, c'est nous le plus grand obstacle. On a trop de nous dans nous. Pas assez de Jésus. Quand ça arrive à ce point-là, la meilleure chose, c'est de laisser Dieu faire. Je vais terminer avec cette histoire-là d'une histoire vraie, d'un livre qui s'intitule, là tu peux le mettre, Différent tout comme moi. Et c'est drôle les hasards de Dieu. En fait, j'ai déjà lu, le hasard ou les coïncidences, c'est quand Dieu veut rester anonyme. C'est drôle les coïncidences ou les hasards parce que alors que j'avais préparé de dire ok je vais prendre cette message là et que j'appréhendais ce message là, j'avais pas tellement le goût de l'approfondir puis de le vivre, et alors que j'ai commencé à préparer ça il y a quelques semaines, ma femme avait déjà acheté ce livre là il y a plusieurs années, elle m'avait prêté ça, je l'ai lu, ben j'ai presque fini, puis avant de le finir, je trouvais très intéressant. Je me disais, ah oui, il y a des bons points là-dedans. Et tout à coup, qu'est-ce qui apparaît pas qui sort en vidéo? Le livre. Le livre est sorti en vidéo. Et je veux juste vous lire le petit synopsis en arrière de cette histoire-là. Une histoire vraie si incroyable qu'aucun romancier n'aurait osé la rêver. Le destin d'un esclave de l'ère moderne, d'un marchand d'œuvres d'art et de la femme qui curieusement les unit. Devin Moore a grandi dans l'esclavage cueillant du coton pour l'homme blanc jusqu'à la fin des années 1960, sans jamais avoir été payé ni être allé à l'école. Il considérait sa survie dans la rue comme une ascension dans la vie. Lui pensait qu'il venait de graduer. Jamais il n'aurait pu imaginer devenir l'ami d'un homme blanc qui conduisait un VUS et qui buvait du café Starbucks. Ron Hall, marchand d'œuvres d'art de haute gamme, a connu son ascension fulgurante, se sentant dans son élément dans les haciendas d'Hollywood, les galeries de Soho et les châteaux européens. Il n'avait jamais soupçonné que le prochain chapitre de sa vie serait écrit dans un refuge pour sans-abri d'un quartier défavorisé. Et encore moins qu'un homme de la rue à la loyauté indéfectible et à la perspicacité étonnante l'accompagnerait dans les moments les plus difficiles de sa vie. Et enfin, Debbie Hall, une femme courageuse et convictions profondes, sa compassion et sa persévérance lui ont permis de les unir pour transformer et redonner espoir à des milliers de gens d'un quartier défavorisé. Voici l'histoire de la vraie vie, souvent déchirante et toujours surprenante, celle à laquelle on peut croire. En fait, cette histoire-là, c'est une histoire vraie. Et le film, je pense qu'il sort au Canada ici mardi, il s'appelle Same Kind of Different as Me, différent tout comme moi. C'est tiré du livre que je viens de vous parler. Et ce que je voudrais faire, c'est juste vous donner un petit extrait du film. Est-ce que ça vous tente de regarder ça avec moi? Je vais vous donner un petit extrait du film, vous allez pouvoir voir ce que ça a l'air. Est-ce qu'on est prêts à partir ça? On met ça, les amis, on met du volume et on écoute ça. Un très, très bon livre, très bon film. Et en fait, je voulais terminer avec cette histoire-là parce que la femme, vous avez Ron et Denver. Ron, c'est l'homme blanc, Denver, c'est l'homme noir. Et la femme de Ron qui est là. Et dans cette histoire-là, Debbie, en fait, tout commence avec Debbie qui a un rêve. Et dans son rêve, elle voit cet homme-là. Et que Dieu lui dit, les choses vont toutes changer. Et elle donnait beaucoup de temps dans un foyer de sans-abri. Son mari, lui, rien savoir, lui, il se contente de signer des chèques. Il dit, combien tu as besoin? Et elle, à un moment donné, il se passe une situation où il a une aventure avec une autre femme, et sa femme lui dit, tu décides qu'est-ce que tu veux faire. Tu t'en vas. Et finalement, il décide de rester. Et sa femme lui dit, parfait, mais voici les conditions. Et à ce moment-là, elle dit, tu vas venir avec moi. Travailler au refuge de sans-abri. Et lui, il pense que ça va juste passer une journée là pour aller voir puis faire un check. Mais finalement, la situation va vraiment changer. Dans les deux cas, autant cet homme-là qui s'appelle Denver, cet homme, l'homme noir Denver Hall, qui va devenir un pasteur par la suite. Et ensemble, ils vont bâtir des refuges, églises et tout ça. L'Évangile a changé leur vie. Mais la réalité, c'est que ça a commencé par un brisement. C'est qu'ils étaient brisés. Et tant et aussi longtemps que tu n'es pas à cet endroit-là, Dieu ne peut pas t'utiliser. Tu as besoin d'aller à cet endroit-là. Ce moment-là dans ta vie où Dieu te brise. Et c'est à partir de là que Dieu peut l'utiliser. Brisé, versé. Et de dire, Seigneur, brise-moi, c'est un peu drôle en se disant, mais Seigneur, je peux pas te demander ça, ça va me faire plus de mal que de bien. C'est parce que tu ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Cette histoire-là, c'est phénoménal. Quand aujourd'hui, le pasteur Denver est décédé en 2012, je crois. Il reste Ron, l'homme qui, parce que son épouse Debbie meurt dans l'histoire. Et c'est aussi ça, l'infidélité du mari, la mort de la femme. Toutes ces choses-là vont amener des brisements par-dessus brisements par-dessus brisements. Mais la réalité, c'est que ce que Dieu a besoin, c'est un vase vide. Il est celui qui crée les vases. Et quand on dit « brise-moi », c'est celui qui peut toutes les reconstruire. Ce qu'on a souvent peur, c'est que Dieu nous enlève ce qu'on a et qu'on va le perdre. Mais la réalité, c'est que si tu t'accroches à ce que tu as, Dieu peut rien te donner de plus. Il ne peut rien faire. Il y a trop de toi dedans. Et c'est dans ces deux histoires-là de briser et verser, c'est qu'on ne peut pas répandre quelque chose sans briser cette chose-là. Ça se répand pas. Et c'est ce brisement-là. Ron a vécu, et sa femme ont vécu un brisement énorme dans leur vie. Et c'est en fait ce brisement-là qui deviendra le catalyseur de toute l'histoire. C'est ce qui va générer qu'il va avoir une histoire qui devient inoubliable, qui devient impensable. Si vous leur aviez demandé aujourd'hui, si on pouvait leur... Parce qu'on leur posait des questions souvent dans des conférences, des choses comme ça. Puis, et Ron, qui s'appelle? Ron, il disait... Je voyais beaucoup de conférences et de choses de lui cette semaine. Et, en fait, il voulait rien savoir de faire ce que sa femme lui demandait. Ça l'intéressait pas d'aller là. Lui, il voulait juste vendre ses œuvres d'art, signer des chèques, puis vivre dans sa maison, mais il réalisait que sa vie était vide. Il était déjà brisé en dedans. Et tout ce que Dieu fait, c'est qu'il vient révéler ces moments-là, dire, ce que tu as besoin, c'est que moi j'entre dans ça, puis je répare tout ça. Mais ça implique d'ouvrir ça. Et c'est ça qu'on veut pas. Parce que quand on a mal, notre réaction première, c'est de se fermer sur nous. C'est d'empêcher l'extérieur de venir briser plus. C'est de se refermer, de dire, je peux pas m'ouvrir. Si je m'ouvre, je vais avoir plus mal. Puis je veux pas avoir plus mal, je veux que ça arrête. Et on est pris dans ce paradoxe-là. Où on veut que ça aille mieux, mais on ne veut rien faire pour que ça aille mieux. En fait, on prie, oui, c'est fondamental. Et on prie comme plutôt un souhait. Seigneur, fais donc que les choses changent. Si vous ne savez pas, je vais vous dire aujourd'hui, la première chose que la prière fait, c'est qu'elle change la personne qui prie. C'est la première chose que ça fait, la prière. Ça te change toi. En fait, on se veut jouer un petit tour. On change, on prie, Seigneur, change mes circonstances, change ma situation, change ceci, change cela. Mais la première chose que Dieu a besoin de changer, c'est moi. C'est moi qui ai besoin d'être changé. Et c'est pour ça que cette prière est audacieuse, de dire, Seigneur, brise-moi. Enlève-moi de dans le chemin. Que moi, je puisse être tassé. Je peux-tu inviter juste Oli à venir faire un peu de piano? L'Évangile, en fait, c'est une invitation à donner ta vie à Jésus, à mourir à tes propres désirs, à tes propres ambitions. C'est de venir à Dieu tel que t'es et de laisser lui te façonner. On a souvent nos opinions. Combien ici ont des opinions? Vous avez toutes une opinion sur quelque chose. Vous aimez donner vos commentaires. La preuve, c'est que Facebook vit bien avec ça. C'est vrai. Les réseaux sociaux fonctionnent à merveille des commentaires et des opinions de tout le monde. Parce que tout le monde aime donner son opinion. Les gens aiment ça, donner leur opinion. Et si on croit à notre opinion, c'est qu'on pense que c'est la meilleure. Et que tout le monde devrait adhérer à la même. Que tout le monde devrait avoir l'opinion que moi j'ai, parce que mon opinion, c'est la meilleure, puisque je la prends. Et quand on pense comme ça, c'est qu'on est en train d'exclure Dieu. Parce qu'on se dit, voici ce que moi je pense, voici ce que moi je vois les choses. Et on met souvent ça sur le dos de Dieu. « Ah, Dieu veut pas ça. » C'est assez étrange qu'une personne comme Jésus se ramasse chez un gars, Simon le lépreux, et qui reçoit une prostituée qui lui renverse un année de salaire de parfum sur la tête, que tout le monde est à l'envers, puis que lui fait « Pourquoi vous y faites de la peine? » Pourquoi vous y faites de la peine? Parce que c'est comme ça qu'il les a repris. Il leur a dit « Mais pourquoi vous y faites de la peine? Pourquoi vous faites ça? » Elle vient de montrer tout son brisement. Elle vient de tout ouvrir sa vulnérabilité devant tout le monde ici. Et ce que vous autres vous faites, c'est vous la jugez. Jésus reprenait les gens qui faisaient ça. Arrête de juger. Je suis pas venu pour ça. Il y a un temps pour chaque chose. Dieu fera son jugement quand ça va être le temps. En attendant, c'est pas ça. C'est pas ça que Jésus est venu faire. Jésus dit, je suis pas venu juger le monde, je suis venu sauver le monde. Je suis venu parce qu'il avait besoin d'être restauré, d'être racheté. Il n'y a pas besoin de Jésus pour être jugé. On est capable tout seul de le faire. On le fait déjà à temps plein. C'est un job pour du monde. Mais la réalité, c'est que Jésus dit, mais pourquoi vous y faites de la peine comme ça? Et c'est comme si Jésus dit, mais regardez ce qu'elle vient de faire. Elle vient de donner le... Et Jésus va dire à Simon, Simon, toi, quand je t'arrive ici, tu m'as jamais lavé les pieds. Ce que toutes les autres devaient faire. Elle avait des larmes sur les pieds de Jésus, puis elle les essuyait avec ses cheveux. Elle lui a donné du parfum, et Jésus dit, Simon, t'as jamais oint ma tête quand je suis rentré ici. En fait, elle est venue faire ce que t'as pas fait. Wow! Et c'est assez parce que Jésus peut dire, hey Simon, t'es lépreux toi, hein? Pense-y deux minutes là, avant de juger le monde. Jésus n'a jamais dit ça. Il n'a jamais remis d'en face qui il était. Il lui a jamais dit, hey, t'es pas bon toi, hein? T'es lépreux toi, pourquoi tu juges? Jamais. Il a mis l'emphase sur le geste qu'elle avait fait. Brisé et versé. Et c'est pour ça que Jésus dit, voici mon corps qui est brisé pour vous. Voici mon sang qui est versé pour vous. Mon corps a été brisé, mon sang versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. En fait, j'aime cette théorie ou cette façon-là que plusieurs théologiens disent, est-ce qu'il y avait plus que juste s'en souvenir? Celui de le faire, de vivre comme Jésus, de laisser Jésus vivre dans ma vie, de laisser Jésus faire ce qu'il veut dans ma vie, de lui donner la permission d'agir comme il le désire dans ma vie. Et si cette vie-là, je l'ai donnée à Jésus, elle ne m'appartient plus. Elle est à lui. Elle lui appartient. Faites ceci en souvenir de moi. Ronald Invermore ont fait ceci en mémoire de Debbie, qui était la femme. Mais c'est exactement ce que Jésus a dit. En fait, ils n'ont pas simplement fait ceci en souvenir d'elle. Ils l'ont continué à agir comme elle agissait. Et je pense vraiment que c'est comme ça que Jésus veut qu'on soit. Pas simplement de souvenir une fois de temps en temps quand on prend le breuvage et le pain ou pour souvenir ce que Jésus a fait. Non. Ce que Jésus t'a dit, c'est que je veux vous souvenir comment j'ai vécu pour que tu vives comme ça toi aussi. Je veux que tu te souviennes de ce que j'ai fait, l'exemple que j'ai donné. Ça se réfère pas juste à un rituel, une liturgie, mais ça se réfère à nos vies. Nos vies brisées, déversées, afin qu'on puisse servir Jésus de tout notre cœur. La réalité, c'est que beaucoup d'entre nous, nous sommes ce que j'appellerais pas des disciples entièrement dévoués. On a écrit notre mission dans l'Église, la vision, de dire qu'on voulait, en tant qu'Église, on voudrait conduire les gens à devenir des disciples pleinement dévoués, passionnés pour Jésus. Et je crois que tout mon cœur, que ça représente ça, le cœur de Dieu. Mais la réalité, c'est que beaucoup de nous autres, j'appellerais pas des disciples entièrement dévoués, mais des disciples partiellement dévoués. Je sais que c'est pas une bonne nouvelle, ça. Je sais que vous l'aimez pas. Mais je vous partage juste ce que j'ai mis, je l'ai écrit parce que Dieu me l'a demandé de le mettre. On le fait quand ça nous accommode, quand ça nous va, quand ça rentre dans notre horaire, quand ça rentre dans ce qu'on veut faire, quand ça fit. Vous vous trouvez à un moment donné, à quelque moment que ce soit, partiellement consacré à Jésus, je veux juste t'encourager à envisager de faire cette prière dangereuse, de prier « Seigneur, brise-moi ». Dieu, pour que je puisse être entièrement dévoué à toi, dépendant de toi, quoi qu'il en soit. Dieu, je veux te connaître, toi. Je veux être proche de toi. Je veux te servir fidèlement parce que je veux te faire confiance. Puis Dieu, fais ce qu'il faut, brise-moi pour que je puisse te connaître. C'est cette réalité à laquelle nous faisons face. Et je la comprends. Et je peux vous dire, je suis sur le même bord que vous autres. J'ai considéré fortement ne pas prêcher ce message. fortement parce que je trouvais ça terrible. Je le trouvais spirituellement lourd. En fait, c'était lourd durant toute la semaine, la guerre spirituelle que ça a faite. Toute la bataille que j'ai eue de ne pas venir le faire un matin. Et je devais constamment me rappeler de dire, OK, mais je ne le fais pas pour moi, parce que si je le fais pour moi, c'est sûr que je ne le fais pas. Si je le fais, je le fais parce qu'il faut que je le fasse. C'est pas simplement un message de dire, ah, voici, la Bible vous dit ceci, la Bible vous dit cela, allez en paix, mes frères. Quand Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi, je crois vraiment qu'il s'attendait à ce qu'on fasse ça dans notre vie, que notre vie soit en mémoire de lui. Pas juste le moment où on prend la communion, où on prend la Sainte Cène, mais notre vie au complet, à être en mémoire de lui. Pas un geste d'un instant, mais une vie. Une vie à son image.
Merci d'avoir pris le temps de télécharger ce message. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre site Internet au www.ccsdv.com. www.ccsdv.com. Que Dieu vous guide et vous bénisse. Bonne semaine.